Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce jeudi 22 mars 2018. Merci de nous rejoindre. Au micro, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
Les titres ce matin, Anne.
En visite en Centrafrique, la procureure de la Cour pénale internationale met en garde les auteurs présumés des crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Nous allons résolument poursuivre nos actions contre l'impunité des crimes graves commis en Centrafrique.
Reprise du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina, la défense conteste à nouveau le tribunal.
L'ex-président français Nicolas Sarkozy mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen.
Aux États-Unis, compromis budgétaire au Congrès pour éviter un nouveau shutdown du gouvernement fédéral.
Et dans 9 minutes, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sport.
Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso a repris hier à Ouagadougou. En présence des principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, comme attendu, la défense a de nouveau contesté la légalité du tribunal. De la capitale burkinabé, le compte-rendu de notre correspondant Lamine Traoré.
Les débats ont été houleux à la reprise de ce procès suspendu il y a 3 semaines. L'audience ouverte à 9h a été suspendue après la constitution du tribunal, peu avant 10h. 3 juges assesseurs militaires, dont un général et 2 colonels et leurs 3 suppléants, ont été désignés. À la reprise à 11h, les discussions ont tourné sur les questions de forme, notamment la légalité du tribunal militaire. Selon les avocats de la défense, la composition du tribunal devant juger les généraux Gilbert Diendéré, présumé cerveau de ce coup d'état manqué, Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé, et au moins 80 personnes, est irrégulière. Le président du tribunal ainsi que les différents juges ont été nommés pour siéger au niveau de la chambre de jugement, alors qu'ici, il s'agit de la chambre de première instance qui devait statuer, ont indiqué les avocats de la défense. Ces derniers ont aussi contesté la régularité du parquet militaire. Ces observations n'ont pas de base légale, ont rétorqué tour à tour le parquet et la partie civile. Toute cette journée de ce procès qualifié d'historique au Burkina Faso a été une bataille procédurale. Les débats suspendus en fin de soirée reprennent ce matin. Le parquet va procéder à l'examen des exceptions avant d'entrer dans le vif du sujet. Le jugement proprement dit, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La procureure de la Cour pénale internationale effectue un séjour de 3 jours en République centrafricaine. Arrivée mardi soir à Bangui, Fatou Bensouda a mis l'accent hier sur le rôle qu'aura à jouer la Cour pénale spéciale, une nouvelle juridiction chargée d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme commises en Centrafrique depuis 2003. De la capitale centrafricaine, correspondance de Freeman Sipila.
C'est la deuxième visite de Fatou Bensouda en Centrafrique après celle effectuée en février 2015. Mis à part l'affaire Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale a ouvert un nouveau dossier sur la République centrafricaine. Elle enquête depuis septembre 2014 sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte de la recrudescence des violences dans le pays à partir de 2012. La procureure de la Cour pénale internationale est dans la capitale centrafricaine pour appuyer la mise en place de la Cour pénale spéciale, une juridiction qui devra elle aussi juger les crimes graves commis dans le pays. Fatou Bensouda a assisté à l'ouverture de la formation des membres de la Cour pénale spéciale.
C'est un honneur pour moi d'avoir été convié à l'ouverture de la toute première formation à Bangui à l'intention des magistrats de la Cour pénale spéciale. Cette Cour est dotée d'un mandat complémentaire à celle de la Cour pénale internationale. Avec les juridictions ordinaires centrafricaines, nous allons résolument poursuivre nos actions contre l'impunité des crimes graves commis en Centrafrique.
La procureure de la CPI restera 3 jours à Bangui et devra aussi s'entretenir avec les autorités centrafricaines. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Également dans l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé hier à son envoyé pour le Sahara occidental de poursuivre les pourparlers sur une relance de négociations visant à régler le différend autour de ce territoire. Horst Köhler a rencontré les membres du Conseil à huis clos pour l'informer de ses discussions avec des représentants du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Front Polisario qui luttent pour l'indépendance du Sahara occidental. Aucune date n'a été annoncée pour reprendre des pourparlers formels.
En Tunisie, un commissariat a été incendié hier dans le bassin minier du centre du pays après de nouveaux heurts entre la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène, et de jeunes chômeurs réclamant un emploi. Après plusieurs semaines de blocage de la production du phosphate en février, la situation s'était à nouveau tendue la semaine dernière à la suite d'annonces gouvernementales jugées insuffisantes par des habitants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été inculpé hier soir dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2007. Monsieur Sarkozy, qui nie les faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens et placé sous contrôle judiciaire. La garde à vue de l'ancien président a duré en tout 26 heures. Le quotidien Le Parisien a parlé hier du cadeau posthume de Muammar Kadhafi.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a appelé hier les électeurs à participer massivement à l'élection présidentielle la semaine prochaine. Il fera face à un seul candidat qui est également l'un de ses fervents partisans. Les détails avec Abdourahman Dia.
C'est un scrutin qui se déroulera sur trois jours, les 26, 27 et 28 mars. Abdel Fattah al-Sissi brigue un deuxième mandat de 4 ans. Ancien chef de l'armée, il a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi. Plusieurs autres prétendants à la présidence ont été écartés. L'ancien chef d'état-major Sami Anan a été interpellé peu après avoir annoncé sa candidature. L'ex-premier ministre Ahmed Shafik, à son retour d'exil, a été gardé dans un hôtel jusqu'à ce qu'il retire sa candidature. Le président Sissi estime que l'absence de concurrents sérieux n'était pas de sa responsabilité. Son seul rival, Moussa Mustapha Moussa, a battu campagne pour lui avant de se lancer dans la course le 29 janvier dernier. D'ailleurs, il avoue que c'est pour éviter à M. Sissi d'avoir à se présenter seul dans un scrutin aux allures de référendum. Il a remercié le président égyptien en disant que, quel que soit le résultat final, mon respect pour vous et vos réalisations resteront un idéal dans ma vie et à l'avenir.
En Afghanistan, des dizaines de personnes, pour la plupart des adolescents, ont été tuées hier à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque commise par un kamikaze à pied est la cinquième en quelques semaines à Kaboul. Les bilans sont souvent contradictoires. Le ministère de la Santé fait état de 33 morts et 65 blessés, alors qu'une source sécuritaire parle d'au moins 37 personnes tuées. Les victimes, pour la plupart des adolescents, célébraient Nowruz, le nouvel an perse, devant l'université de Kaboul. L'explosion s'est produite alors que ces jeunes jouaient de la musique et dansaient. Le président Ashraf Ghani et le représentant de l'ONU, Tadamichi Yamamoto, ont tous les deux condamné l'attentat. Fin janvier, le président afghan a proposé des pourparlers de paix. Les talibans ont refusé toute discussion avec le gouvernement de Kaboul, qu'ils qualifient de marionnette des États-Unis et se disent prêts à négocier uniquement avec Washington. Par ailleurs, cette attaque survient alors que le chef d'état-major américain, Joseph Dunford, se trouve en Afghanistan pour passer en revue les troupes avant la saison des combats que les talibans appellent offensive du printemps.
Ici aux États-Unis, la majorité républicaine et l'opposition démocrate au Congrès ont annoncé hier un accord pour financer durablement l'État fédéral quelques jours avant une date butoir cruciale. Chaque camp a dû renoncer partiellement à certaines revendications, y compris le président Donald Trump, sur l'une de ses promesses de campagne, la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Il reste désormais seulement un jour au Congrès avant vendredi soir minuit pour adopter la loi et éviter le troisième shutdown de l'année, c'est-à-dire la fermeture des administrations.
Toujours aux États-Unis, un homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'attentats aux colis piégés qui ont semé la peur à Austin, la capitale du Texas, s'est donné la mort hier en se faisant exploser dans sa voiture alors qu'il allait être arrêté par la police. L'homme, âgé de 23 ans, a été identifié par les autorités comme Mark Anthony Condit. Le président Donald Trump a félicité la police hier. Le poseur de bombes présumé d'Austin est mort. Beau travail de la police et de tous ceux impliqués, a-t-il écrit sur Twitter. Les motivations de Mark Condit restent inconnues. Les premières victimes étaient noires ou hispaniques, faisant craindre un acte raciste. Mais la quatrième explosion dimanche soir a blessé deux hommes blancs, faisant pencher la police pour des cibles aléatoires.
Le patron de Facebook est sorti d'un long silence hier. Mark Zuckerberg s'est dit désolé et a reconnu des erreurs après des jours de polémique autour de l'utilisation indue de données personnelles de millions d'utilisateurs par la firme britannique Cambridge Analytica. Il a également indiqué qu'il serait heureux de venir témoigner devant le Congrès américain, comme plusieurs parlementaires le lui ont déjà publiquement demandé. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité économique, c'est la Minute Éco avec Bagassi Koura.
44 pays africains ont signé à Kigali l'accord créant la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Elle est perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique selon l'Union africaine. Le Nigeria est le principal pays à s'être abstenu. L'UE estime que l'élimination progressive des droits de douane entre membres de la ZLEC permettra d'augmenter de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Dans une note officielle datée du 20 mars, le ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire a décidé de s'attaquer à certaines sociétés de marketing de réseau. Cette annonce intervient quelques 4 mois après la fermeture de 28 entreprises agro-business dénombrant 36 699 souscripteurs ayant investi 66 milliards de francs CFA pour une promesse totale de 660 milliards de francs CFA, alors que les soldes disponibles sur les comptes bancaires de ces entreprises s'élevaient à quelques 22 milliards de francs CFA. Le Nigeria envisage de mobiliser 15 milliards de dollars pour achever le projet de la mise en place d'une ligne ferroviaire entre Port Harcourt et Maïdougouré, a indiqué ce mardi le ministre des Transports Rotimi Amaechi. Selon les informations relayées par l'agence Ecofin, ces fonds devraient être débloqués dans le cadre d'un prêt qui devrait bientôt être négocié en Inde.
Passons d'emblée à la page sportive qui nous est présentée ce matin par Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
La CAF a effectué hier le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
Tout à fait Jacques, des groupes équilibrés avec un groupe C de gala où figurent les vainqueurs 2016 et 2017 de la compétition, de quoi donner des sueurs froides à l'AS Togoport et à Oroya. Les représentants togolais et guinéens font leur début dans la Ligue des Champions et devront réaliser des exploits face au Mamelodi Sundowns et au Wydad Athletic Club de Casa, champion en titre, 8 fois champion d'Afrique. Alali se retrouve dans le groupe A avec les nouveau venu de Township Rollers et les Cassifiés et devra batailler pour la première place du groupe avec l'Espérance de Tunis. Le TP Mazembe qui retrouve la C1 après 2 saisons en Coupe de la Confédération retrouve El Jadida, MC Alger et Entente Sétif dans le groupe B. Le premier tour débute dans la première semaine de mai. Les premiers de chaque groupe s'avancent vers les quarts de finale.
Les affiches du tour de cadrage de la Coupe CAF sont également connues.
Et oui Jacques, et il faut savoir que les clubs éliminés de la Ligue africaine des champions ont été repêchés pour participer à ce tour de cadrage. De belles employades en vue à l'image du choc congolais entre la formation quinoise de l'AS Vita Club et le CS La Mancha de Pointe-Noire. Le Djoliba AC de Bamako se déplacera chez les Nigériens du MFM. La SEC Mimosa a un adversaire a priori difficile, le CR Belouizdad Dad.
Journée FIFA, Madagascar a tenu le Togo hier en échec.
Et pour sa première sortie, un match amical lors de cette trêve internationale, le Togo n'a pas pu trouver la faille devant Madagascar. Mieux, ce sont les Baréas qui ont assuré le spectacle au stade de Saint-Leu-la-Forêt à Paris. Malgré l'entrée en jeu d'Emmanuel Adebayo pour les 25 dernières minutes, les éperviers n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Score final 0-0. Aujourd'hui, Jacques, l'Algérie fera face à la Tanzanie, le Burkina Faso jouera à la Guinée-Bissau, la Thaïlande affronte le Gabon à Bangkok et Macao reçoit l'île Maurice. NBA, pour terminer avec vous, Jacques, quelques résultats de la nuit dernière.
Eh bien, victoire des Cleveland Cavaliers face au Toronto Raptors. 132-129. Ailleurs, Memphis 105, Philadelphie 119, Charlotte 111, Brooklyn 105, New York Knicks 98, Miami Heat 119, Indiana 92, Nouvelle-Orléans 96, Denver 135, Chicago 102, LA Clippers 129, Milwaukee Bucks 120 et Washington Wizards 90, San Antonio Spurs 98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Monde aujourd'hui qui se poursuit sur VOA Afrique. Merci d'être toujours avec nous en ce jeudi matin. Jacques Aristide au micro, nous passons d'emblée à nos dossiers du jour. L'Afrique a désormais sa zone de libre-échange à l'échelle continentale. Ce projet phare de l'Union africaine a vu le jour hier à Kigali, au Rwanda, après 2 années de négociations. Sa création est présentée comme potentiellement la plus vaste au monde en nombre de pays membres. L'accord, paraphé par 44 pays, doit permettre l'élimination progressive des droits de douane pour ainsi favoriser le commerce au sein du continent, avec pour but notamment d'aider les pays africains à s'émanciper d'un système économique trop centré sur l'exploitation des matières premières. Au même moment, 27 États africains ont profité de l'événement de Kigali pour signer un protocole autorisant la libre circulation des personnes entre les pays signataires. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza s'est entretenu avec le secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe.
On a eu 44 signatures de chefs d'État et de gouvernement. On n'en attendait pas tant, ce qui est un événement historique et on espère qu'il y aura autant de ratifications, puisque les chefs d'État ont décidé que l'accord sur la zone de libre-échange continentale va entrer en vigueur avec 22 signatures. Et on espère que cela va arriver avant le sommet de janvier 2019 à Addis Abeba.
Et que prévoit l'accord ?
L'accord, en fait, je l'avais dit, c'est un vieux rêve africain. C'est un des projets phares de l'intégration du continent, hein, où on va libéraliser le commerce entre pays africains. Vous savez que le commerce intra-africain est l'un des plus bas au monde avec 7%. Donc nous, ce qu'on veut, c'est booster ce commerce. Et les études nous disent que lorsqu'on cet accord sera en vigueur, le commerce entre pays africains augmentera de 60%. Et il va y avoir bien sûr d'autres conséquences positives pour l'économie africaine, la promotion de l'industrie sur notre continent. Et puis aussi, ça va nous permettre, en tant qu'Africains, de faire du commerce avec d'autres continents sur, j'allais dire, un pied d'égalité. Donc être une force dynamique dans le commerce mondial.
Y a-t-il des dispositions qui obligent les États qui ratifient l'accord de le respecter? Parce que souvent, on prend des décisions, mais la mise en application, c'est autre chose.
Bien sûr, vous avez raison. Dans le passé, on a signé, il y a eu beaucoup d'annonces de la part des États africains, de l'Union africaine ou bien de l'UE, qui n'ont pas été mises en œuvre. Mais je pense que maintenant, le contexte a changé et que les chefs d'État africains et les pays africains ont compris l'importance de se mettre ensemble et mettre en œuvre les accords qu'on a signés nous-mêmes et qui sont importants pour l'avenir du continent.
Est-ce que les économies faibles ne risquent pas d'être absorbées?
Non, mais je pense que ce sera une opportunité pour les économies, toutes les économies africaines. Vous savez, on est au 21e siècle. L'ère du protectionnisme est révolue. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que le continent doit bien sûr, l'économie des pays membres de l'Union africaine doit bien sûr se réformer pour qu'on arrive à suivre le mouvement. Bien sûr, cet accord sur la zone de libre-échange continentale ne peut pas résoudre à lui tout seul et tous les problèmes liés à nos économies. Donc, cela doit s'accompagner avec d'autres politiques africaines, y compris la politique sur l'industrialisation du continent, par exemple, la politique sur la faire faire les armes sur notre continent. Et donc, c'est très important. Donc, on va mettre tous ces accords et toutes ces politiques ensemble pour essayer de faire que le continent soit un continent prospère, qu'il soit une force qui est respectée sur la scène internationale.
On écoutait Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Il était en ligne de Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Nous vous en parlions en début de semaine, les violences intercommunautaires se multiplient depuis 2 ans dans le centre du Mali. Au moins 8 personnes ont péri dimanche et lundi dernier dans ces affrontements entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Les conflits sont souvent liés à l'eau ou au foncier. Ces incidents surviennent au moment où le Premier ministre Soumeilou Boubeïa Maïga s'apprête à entamer une tournée dans la région de Bamako. Le reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Douanza, Tenenkou, Yuwaru et récemment Koro sont des localités dans la région de Mopti. Gabriel Tchenou, enseignant.
Cette guerre intercommunautaire entre Peul et Dogon. On se rappelle à un moment donné que c'était entre des Peul, d'autres diront que c'était djihadistes qui étaient en conflit ouvert avec les Dosso, les Sasser, avec l'invasion des régions nord du Mali. Il y avait quand même l'implantation de cette idéologie djihadiste qui prône la violence et les désordres.
Sur le terrain, les communautés s'attellent à la sensibilisation. Ibrahim Diko, président de l'Union nationale des jeunes Peul.
Tout Peul n'est pas djihadiste, tout Dogon n'est pas Erozo. Seulement des milices qui sont là sur le terrain, qui possèdent des armes de guerre, sont prêts à s'enrichir du jour au lendemain. Ils sont là, ils tuent les Peul, prennent les troupeaux et maintenant aller tuer quelques Dogon, dès que c'est les Peul qui ont tué, donc chacun se soulève, on s'entretient et profite de cette guerre-là. Donc ça n'arrange personne, donc soyons très vigilants, soyons très solidaires, très soudés et non à l'amalgame.
Dans la zone de Koro, la tension est toujours vive. Avec les Donso, c'est-à-dire les chasseurs traditionnels, ceux-ci parlent de défendre leur village.
Vraiment, cette guerre intercommunautaire n'est pas la bienvenue depuis l'association de notre pays. Ce sont des voisins qui cohabitent ensemble. Cette guerre vraiment n'a pas sa raison d'être. Je pense que le gouvernement doit réunir toutes ses forces afin de pouvoir parler entre eux et trouver une solution rapide.
Réunis à Bamako, les ressortissants de Tenenkou trouvent que leur cas est singulier. Timouré Tchoulenta, porte-parole des ressortissants de Tenenkou.
Ces populations seront soumises à des exactions et des percussions continues, à la rigueur de nouvelles réglementations dans le domaine religieux et en matière de comportement social. Tout cela couronné par des enlèvements aussi emblématiques, spectaculaires, des massacres retentissants et des meurtres anciens. Vous comprenez que 27 enlèvements dans la Mélouche, voire plus que temps de mettre fin aux souffrances des populations.
En plus de la sensibilisation des communautés, l'État veut déployer des militaires sur le terrain. Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti.
La défense du territoire, des personnes et de leurs biens, revient à l'armée nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un État très responsable et cet État ne veut pas de milices où des gens s'organisent et disent qu'ils vont défendre leur communauté. Ça va nous amener très loin. Seule l'armée doit justement détenir l'arme. Ce n'est pas les communautés qui doivent s'organiser pour dire qu'elles vont assurer leur propre défense.
La situation reste tendue sur le terrain. Une visite du Premier ministre est attendue à Koro ce week-end. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le siège de la CEMAC provoque une nouvelle levée de boucliers en République centrafricaine. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Revenue à Bangui il y a 4 mois, le siège de l'organisation régionale va de nouveau être installé à Malabo, en Guinée équatoriale. La décision est vertement critiquée dans la capitale centrafricaine, d'où nous retrouvons le correspondant de VOA Afrique, Freeman Sipila.
Le 19 février dernier, le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a pris la décision de délocaliser provisoirement le siège de la CEMAC de Bangui à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette décision n'a été révélée que mi-mars au Centrafricain. L'annonce a fait un véritable tollé dans le pays et particulièrement à Bangui, la capitale. Dans les rues, c'est la consternation des habitants.
Le chef d'État doit convoquer une réunion avec toutes les forces vives de la nation pour que les gens réfléchissent. Est-ce qu'il n'y a pas un complot en vue? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se prépare.
Même s'il y a de quoi, on doit avoir la solution à tout ce problème. Ce n'est pas nécessaire de le déporter pour mettre quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas bien tenir à l'avenir.
Ce qui me sidère dans tout ça, c'est le fait que nos leaders politiques n'aient pas réagi de façon vigoureuse.
Selon la présidence de la CEMAC, le retour du siège à Bangui exigeait la réhabilitation préalable des infrastructures et équipements abandonnés à la suite de la crise dans le pays. Selon des sources proches du siège de la commission à Bangui, l'État centrafricain aurait déboursé près de 200 millions de Français CFA pour la taxe communautaire d'intégration, permettant ainsi aux présidents et vice-présidents d'avoir leur logement de fonction. 50 cadres de la communauté sont même actuellement logés dans différents hôtels de la place, aux frais du Trésor public centrafricain. Pour Jean-Serge Wafio, porte-parole du Conseil des leaders politiques et sociaux CLPS, ancien commissaire de la CEMAC,
c'est un coup politique très bas que le président Déby nous a fait. C'est plus qu'un mépris.
Le président Touadéra doit parler. Il doit dire quelque chose. S'il ne dit rien, le CLPS va lui donner un carton orange. C'est sérieux, là.
Paul Cresson Beninga, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
Nous sommes dans une politique d'intégration. Les traités de la CEMAC sont clairs. Lorsqu'on veut envisager une décision de cette nature, il faut consulter tous les chefs de l'État. Ce que nous remarquons, c'est que les chefs d'État ne sont pas consultés. Obiang Nguema a saisi Déby de façon unilatérale, a pris une décision qui n'arrange pas les affaires des Centrafricains. Il faut saisir la cour de la CEMAC. Les procédures sont là.
Le gouvernement mis dos au mur et son porte-parole assure que la République centrafricaine ne se laisserait pas faire. Maxime Kazaghi, ministre de la Communication.
Le chef de l'État suit lui-même ces questions. Des contacts se sont déjà pris, d'abord pour comprendre les ressorts de cette situation et bien entendu de donner, si ce n'est de forcer, le point de vue de notre pays, la République centrafricaine. Pour nous, cette question n'était plus une question à discuter.
Aujourd'hui, la CEMAC contribue à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA par mois dans l'économie centrafricaine. Freeman Sipila, Bondi, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Un chiffre ce matin, 13 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, ont besoin d'assistance humanitaire en République démocratique du Congo, d'après l'ONU, qui dit avoir besoin d'1,7 milliard de dollars pour leur venir en aide. La situation est particulièrement préoccupante dans la province centrale du Kasaï. Notre envoyée spéciale, Anita Powell, s'y est rendue. Son reportage est relaté par Jean-Roger Billon.
La crise qui embrase la province du Kasaï dans le centre de la RDC a fait plus d'un million de déplacés. Parmi eux, la petite Georgette, âgée de 14 mois, pèse 7 kilos, bien moins qu'un enfant de son âge. Les affrontements de l'année dernière entre la milice Kamuina Nsapu et l'armée congolaise ont forcé Georgette et sa famille à quitter leur village et à abandonner leur champ, explique sa maman Suzanne Lukaji.
Nous avons fui dans la brousse. Elle est tombée malade et ne pouvait pas manger. Elle toussait. Nous avons passé 6 mois en brousse.
Des 1,7 milliard de dollars qu'elles ont sollicités pour la RDC, les agences onusiennes n'ont reçu qu'une infime partie. Oscar Boutragueño est responsable de l'UNICEF dans la province du Kasaï.
Nous estimons que 150 000 enfants sont affectés. C'est donc très sérieux. De nombreuses personnes sont encore déplacées et ne peuvent pas retourner chez elles. Même avant la crise, les responsables humanitaires affirmaient déjà que plus de la moitié des enfants souffraient de malnutrition chronique.
Au centre de distribution de vivres du village de Chikula, les habitants se bousculent pour recevoir leur maigre ration de maïs, haricots, huile et sel fournis par le Programme alimentaire mondial. Juste de quoi ne pas mourir de faim, fait remarquer Jean-Pierre Ngalamouloumé, un enseignant.
Les élèves en état aussi de faiblesse, bon, on transfère des matières, mais pour vous écouter, c'est tout à fait un peu difficile. Même les enseignants, là, ça ne donne même pas de courage d'enseigner, continuez aussi de vendre.
L'UNICEF a averti que jusqu'à 400 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir de malnutrition aiguë cette année en RDC si elle n'obtient pas l'appui sollicité auprès des donateurs.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
petite ambiance musicale pour prendre un congé de vous. Eh bien oui, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Anna Goldson a dirigé la mise en onde. John Ellison était à la technique. Merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée de jeudi sur VOA Afrique. Take care.